Chapitre 18 Ivresse intellectuelle. Une question très importante et qui demande une réponse réfléchie, c'est celle-ci, que liront nos enfants? J'éprouve une profonde tristesse et suis vivement préoccupée lorsque je trouve dans des familles chrétiennes des journaux dont les feuilletons ne peuvent donner aucun enseignement utile. J'ai suivi de près des personnes qui ont donné libre cours à leur goût pour les lectures fictives. Elles ont eu l'occasion d'entendre annoncer les vérités de la parole de Dieu, et d'apprendre à connaître les raisons de notre foi. Mais elles sont arrivées à l'adolescence sans avoir jamais expérimenté la véritable piété. Lorsque ces chers enfants et ces chères jeunes personnes édifient leur caractère, ils ont un besoin pressant des précieux matériaux qui s'appellent l'amour et la crainte de Dieu, et la connaissance de Jésus-Christ. Mais beaucoup ne possèdent pas une connaissance intelligente de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ils ont repu leur intelligence d'histoire à sensation. Ils ont vécu et vivent encore dans un monde fictif, et sont par conséquent disqualifiés pour les devoirs de la vie pratique. J'ai observé des enfants auxquels on avait permis de lire de ces ouvrages. Soit qu'ils se trouvent à la maison ou au dehors, ils sont ou remuants ou songeurs, et sont incapables de tenir une conversation élevée. Les facultés les plus nobles, celles qui sont destinées à l'acquisition des thèmes les plus élevés, ont été dégradées par la contemplation de sujets futiles, si ce n'est pire encore. Maintenant, de tels sujets répondent pleinement aux aspirations du lecteur de romans qui n'a plus ni le désir, ni le pouvoir de s'élever plus haut. Les pensées et les conversations religieuses sont devenues insipides pour lui. Les aliments intellectuels dont il a appris à jouir exercent une influence corruptrice et engendrent des pensées impures et sensuelles. Mon cœur est ému de compassion pour ces âmes, quand je vois tout ce qu'elles perdent en négligeant les occasions qu'elles auraient d'apprendre à connaître Christ, notre unique espérance de vie éternelle. Quelle quantité de temps précieux elles perdent, tant qu'elles pourraient employer à étudier le modèle de la véritable bonté. J'ai connu personnellement des personnes qui avaient perdu la rectitude de leur jugement par des lectures fictives. Elles traversent le cours de la vie avec une imagination maladive, qui grossit à plaisir chaque petite difficulté. Des choses auxquelles un esprit sain et sensé ne prendrait pas garde deviennent, sous la loupe de leur imagination, des épreuves insupportables ou d'insurmontables obstacles. Pour elles, la vie est enveloppée de ténèbres inextricables. Ceux qui se sont accoutumés à dévorer des histoires à sensation, énervent leur vigueur intellectuelle et se rendent impropres pour des pensées fortes et des recherches patientes. Il est des hommes et des femmes qui se trouvent en ce moment vers le déclin de la vie, et qui n'ont jamais pu guérir des effets de l'intempérance dans la lecture. L'habitude, formée dès l'enfance, a cru avec eux et s'est fortifiée avec eux. Et leurs efforts en vue de s'en affranchir, quelque déterminés qu'ils aient été, n'ont été couronnés que d'un succès partiel. Plusieurs n'ont jamais recouvré leur vigueur intellectuelle originelle. Tous leurs efforts en vue de devenir des chrétiens pratiques restent à l'état de projet. Impossible d'être chrétien tout en continuant à repaître son intelligence de lecture fictive. Les effets physiques de la lecture des romans sont presque aussi désastreux que les effets intellectuels. Le système nerveux est inutilement fatigué par cette passion pour la lecture. Nombre de jeunes gens et même d'adultes doivent être affligés de paralysie uniquement à leur passion pour la lecture. L'esprit a été maintenu dans un état permanent de tension jusqu'à ce que le mécanisme délicat du cerveau affaibli ait été incapable de continuer à fonctionner, et la paralysie en a été la conséquence. Le goût moral de celui qui s'habitue à la lecture des histoires à sensation se pervertit, et son intelligence ne trouve de tranquillité que dans l'absorption de cette nourriture légère et malsaine. J'ai vu des jeunes filles professant servir Christ qui se croyaient réellement malheureuses si elles n'avaient pas sous la main quelques romans ou quelques feuilletons. L'intelligence s'habitue à ces lectures stimulantes, comme l'organisme de l'ivrogne aux boissons alcooliques. Ces jeunes personnes ne possèdent pas de piété vivante. Elles ne font briller sur le sentier de leurs amis aucun rayon de lumière, qui puisse les conduire à la source de toute connaissance. Elles n'ont jamais éprouvé des sentiments religieux sérieux. Si cette littérature néfaste n'avait pas toujours été à leur portée, il y aurait eu espoir de réforme pour elles. Mais elles en sentaient un besoin impérieux, besoin auquel elle s'empressait de donner satisfaction. Je suis navré de voir des jeunes gens et des jeunes filles manquer ainsi leur carrière terrestre, et perdre l'occasion d'acquérir des expériences qui les qualifieraient en vue d'une vie éternelle en compagnie des intelligences célestes. On ne saurait trouver pour eux un qualificatif plus juste que celui d'ivrognes intellectuels. L'intempérance dans la lecture exerce sur le cerveau une influence tout aussi pernicieuse que l'intempérance dans le manger et le boire. Le meilleur moyen de prévenir la croissance de ce mal, c'est de prendre ses avances pour occuper le sol. Il faut cultiver l'esprit avec le plus grand soin et la plus grande vigilance, et y jeter la précieuse semence de la vérité biblique. Dans sa miséricorde infinie, le Seigneur nous a révélé dans les Écritures l'idéal de la sainteté. Il nous dénonce les péchés qu'il faut éviter. Il nous explique le plan du salut, et indique le sentier du ciel. Il a poussé de saints hommes à coucher par écrit, à notre intention, les dangers dont notre sentier est entouré, et les moyens de les éviter. Ceux qui se conforment à ces injonctions, qui sondent les Écritures, ne seront pas laissés dans l'ignorance au sujet de ces choses. Au milieu des périls des derniers jours, chacun des membres de l'Église du Christ devrait avoir une connaissance précise des bases de son espérance et de sa foi, connaissance qui n'est certes pas difficile à acquérir. Nous trouverons des sujets abondants de méditation, si nous voulons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des êtres bornés, mais nous devons plonger les regards dans l'infini. Il faut que l'intelligence s'exerce dans la contemplation de Dieu et du plan merveilleux qu'il a établi en vue de notre salut. L'âme sera ainsi élevée au-dessus des sujets terrestres et terre à terre, et s'en oubliera par la contemplation des réalités éternelles. La pensée que, dans la parole de Dieu, nous nous trouvons en présence du grand Créateur de l'univers, qui a créé l'homme à son image, poussera l'esprit dans un champ de méditation des plus larges et des plus élevés. La pensée que l'œil de Dieu veille sur nous, qu'il nous aime, et que la grandeur de sa sollicitude pour nous l'a poussé à donner son Fils bien-aimé pour nous racheter, et nous empêcher de périr misérablement, est certainement grande. Or, celui qui ouvre son cœur pour accepter et contempler des thèmes de cette élévation, ne pourra jamais trouver de satisfaction dans la lecture et la méditation de nouvelles sensationnelles et triviales. Si l'on étudiait la Bible comme on le devrait, on deviendrait plus fort au point de vue intellectuel. Les sujets dont traite la parole de Dieu, la noble simplicité de son langage, les thèmes élevés qu'elle propose à notre méditation, tout cela développe chez l'homme des facultés qui ne pourraient, par aucun autre moyen, atteindre à un tel degré de développement. Dans la Bible, un champ illimité est ouvert à l'imagination. On sera plus pur et l'on aura des sentiments plus nobles après avoir contemplé ces grands thèmes, et s'être familiarisé avec ces images hardies et sublimes, qu'après avoir lu n'importe quel ouvrage d'origine purement humaine, pour ne rien dire de ceux qui sont d'une moralité douteuse. Jamais les jeunes intelligences n'atteindront au degré de développement le plus élevé tant qu'elles négligeront la source la plus excellente de la sagesse, la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous n'avons pas plus d'esprit distingué, d'homme d'élite, c'est que Dieu n'est pas craint, Dieu n'est pas aimé, les principes de la religion ne sont pas pratiqués dans la vie comme ils devraient l'être. Dieu veut que nous profitions de tous les moyens pour cultiver et fortifier nos facultés intellectuelles. Nous avons été créés en vue d'une existence plus élevée, plus noble, que celle dont nous jouissons actuellement. Nous nous préparons actuellement en vue d'une vie future et immortelle. Où trouver des thèmes plus grands, des sujets plus intéressants, des vérités plus sublimes que dans la Bible? Ces vérités opéreront une œuvre puissante en faveur de l'homme, si seulement il consent à les suivre. Mais combien peu on étudie la Bible? La moindre bagatelle est un prétexte suffisant pour détourner l'attention de ces grands thèmes. Une lecture plus assidue de la Bible, une intelligence plus claire de ses vérités, nous rendrait plus éclairés et plus intelligents. Une énergie nouvelle est communiquée à l'âme qui sonde ses pages. Des anges du monde de la lumière se tiennent auprès de celui qui cherche avec ardeur la vérité, pour agir sur son esprit et l'illuminer. Celui qui tâtonne dans les ténèbres parviendra à la lumière en se familiarisant avec les Écritures.